Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue bien entendu sur Grand Sud FM. On va vous faire revivre une après-midi maintenant au Salon du Livre du Grand Narbonne, la 11e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne qui se situe bien entendu sur le cours Mirabeau Narbonnais. Et pour commencer cet après-midi ensemble, on va retrouver Marilyn en direct de ce salon avec un nouvel invité.
Et oui, je suis avec Majid Tcherfi qui vient de terminer de déjeuner à la Brasserie Co. On s'est installé et puis on va aller rejoindre ce Salon du Livre du Grand Narbonne sur le cours Mirabeau. Majid, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes auteur et parolier. Vous avez été le parolier, tout le monde vous connaît, du groupe toulousain Zebda avant de vous lancer dans la chanson en solo. Ça, c'était dans les années 90. Et puis, dans les années 2000, vous vous êtes lancé dans l'écriture. Alors expliquez-nous comment tout a commencé pour vous, l'écriture. C'était une évidence hein?
Je sais pas trop. En fait, c'est un mystère. Comment est-ce qu'on s'attaque à l'écriture? Je sais que moi, à 11-12 ans, j'écrivais déjà des poèmes pour les filles de ma rue. Et puis, ça faisait de moi le petit prince charmant des quartiers nord, j'ai continué à écrire, parce qu'on écrit quand même pour les filles, à cet âge-là. Et à force d'écrire, on se dit, tiens, est-ce que je pourrais faire autre chose que des poèmes pour des jeunes filles de 12 ans? Et il y a la conscience politique qui entre en jeu avec l'adolescence. Et je me suis dit, tiens, ouais, écrire des choses qui me concernent, donc qui concernent l'exil, l'immigration, le racisme, les luttes antiracistes. Et je me suis plongé dans une écriture militante et poétique. Et c'est comme ça que j'ai écrit pour Zebda, qui demandait justement du texte engagé, mais... à la fois nuancé. Voilà, on s'inscrit dans une dynamique d'écriture et on essaie de parfaire son job. Quoi.
Voilà, donc des textes engagés, c'était vraiment ça. Puis vous êtes lancé dans les romans, vous parlez beaucoup de la famille, votre famille. Et en 2024, vous êtes attaqué à ce roman que vous êtes venu nous présenter ici à Narbonne, au Salon du Livre du Grand Narbonne. Ça s'appelle La vie de ma mère. Est-ce que vous pourriez nous le présenter?
Donc oui, alors je suis dans l'écriture autobiographique. Je suis dans le genre de roman autobiographique parce que je ne sais écrire que ça en fait. Je ne sais raconter que ce que j'ai vécu. Et donc mes sœurs, mes frangins, ma femme, le quartier, tout ce qui a vécu autour de moi y est passé. Et pour la vie de ma mère, j'ai voulu raconter la vie que ma mère aurait aimé vivre. Donc la vie d'une femme libre, ayant son permis, son appart, divorcée, pas d'enfant, voyageuse et bosseuse, ce qu'elle n'a jamais été.
Bon, ça a l'air passionnant, il faut venir sur le Salon du Livre du Grand Narbonne, vous êtes sur le stand 19, Majid Tcherfi. Ce soir, c'est la nuit des musées, je le rappelle à tous les auditeurs de Grand Sud FM, et le public aura la chance de vous retrouver pour une lecture musicale intitulée Longue Haleine. Ce sera au musée Narbovia à 21h30. À qui est-ce que s'adresse ce rendez-vous, Majid Tcherfi?
J'ai envie de vous dire à tous les gens qui ont envie d'être étonnés, d'être subjugués par les histoires que je raconte. Alors, j'ai pris en fait les meilleurs extraits de mes bouquins, je les ai concentrés, et je suis accompagné en piano-voix, donc par un musicien. Donc je raconte un texte qui est illustré par une chanson, un autre texte illustré par une chanson.
Bon, ça va être un petit moment un petit peu magique. Alors je voudrais quand même dire aux auditeurs qu'on peut encore réserver sa place sur WeEvent. On trouve le lien sur le site du Grand Narbonne. Et j'en profite aussi pour préciser que c'est gratuit. Donc c'est l'occasion de découvrir le musée Narbovia et l'occasion de suivre cette lecture musicale Longue Haleine proposée par Majid Tcherfi. Et puis demain dimanche... vous serez à l'espace rencontre de 10h30 à 11h15. Vous allez nous parler des liens du sang à travers la vie de ma mère.
Oui, absolument. Absolument. Donc les liens du sang, ça me parle parce que je ne sais écrire qu'à travers ce prisme-là de qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un frère, qu'est-ce qu'être ensemble. Et je vais pouvoir raconter ma façon d'avoir une famille, moi, et qui n'est pas forcément la famille du sang.
Ah, ça va être très intéressant. Notez bien le rendez-vous. Demain dimanche, 10h30 à 11h15. Majid Tcherfi, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Salon du Livre du Grand Narbonne?
Je crois bien que oui. Voilà, et donc comme je viens en voisin, c'est que du bonheur.
Vous êtes arrivé quand ce matin?
Oui, une petite heure.
Allez, il y a une petite heure, je vous ai coupé, vous étiez en train de déjeuner. Vous avez eu le temps de finir de déjeuner.
Oui, c'est bon.
Et bien sûr, on va retrouver tous les auditeurs de Grand Sud FM, vont vous retrouver. Patientez, je pense, encore une petite vingtaine de minutes et Majid Cherfi sera sur le stand 19 pour dédicacer ses romans. Ses romans, vous l'avez compris, plutôt autobiographiques. En tout cas, désolé de vous avoir coupé, mais merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes et bon salon du livre à Narbonne.
Merci, merci à vous.
Vous êtes toujours dans notre émission spéciale en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne et on va retrouver Benjamin sans plus attendre avec Maïlys Adémar.
Oui Thomas, je suis avec Maïlys Adémar que l'on peut retrouver sur le stand Libellis numéro 19. Bonjour Maïlys.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste et romancière, vous avez écrit notamment des romans engagés comme Béni soit Sixtine, La Grande Ourse et plus récemment L'École est finie. Donc je le disais, vous venez de sortir le livre L'École est finie aux éditions Stock en mars dernier. Quel est le pitch de ce livre dont l'histoire se déroule notamment à Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales?
Oui, alors le pitch de ce livre, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Al, qui a 9 ans quand démarre le roman, qui vit au-dessus de Port-Vendres, sur les Alberts, dans un petit hameau, entre mer et montagne. Et Al est élève d'une maîtresse très sévère, comme on pouvait avoir encore dans les années 90, où il est victime de l'autoritarisme et de violences scolaires. Et donc, il entre en rébellion avec ses amis, sa petite voisine et un copain du village. Il crée la ACE, Association contre école. Et donc, c'est vraiment l'histoire d'une révolte scolaire, d'une histoire à hauteur d'enfant. Comment, à hauteur d'enfant, on peut se révolter contre les injustices du monde des adultes.
Alors, donc l'école, c'est un point central de notre société. Est-ce à travers ce livre un cri d'alerte?
Oui, c'est un cri d'alerte parce que ce livre, je l'ai écrit en retrouvant un texte que j'avais écrit quand j'avais 9 ans. Et en fait, quand je l'ai relu, j'ai été frappée par la violence que je ressentais, moi, en tant qu'enfant, vis-à-vis d'adultes qui ne me regardaient pas avec bienveillance, qui me faisaient parfois des violences physiques. Hein. J'ai appris à lire avec des coups de règle sur les doigts, avec des oreilles tirées. Et aujourd'hui encore, je le sais parce que j'ai des enfants, je le sais parce que j'interviens beaucoup en milieu scolaire, et il n'y a plus de coups de règle, mais il y a encore des violences psychologiques, des violences institutionnelles, le fait d'être assis 8 heures par jour dans une salle de classe sans comprendre le sens, dans des classes de 30 où il y a souvent plusieurs enfants à besoins spécifiques, sans moyens, et avec encore des enseignants qui régulièrement, pas pour tous heureusement, mais certains crient sur les enfants, leur parlent mal, etc. Pour plein de raisons, on n'est pas là pour s'étaler, mais il y a encore cette violence et il y a cette volonté aussi de dire l'école, il faut la secouer parce que l'école, ça peut être autre chose, et c'est ce qu'on voit aussi dans le roman, avec le personnage de Célestin Freinet, qui est une vraie personne incroyable qui a existé, qui était l'instituteur du grand-père de Hall, et qui lui avait, comme d'autres enseignants et pédagogues, essayé de faire une école où l'enfant est au centre et où on n'est pas là pour bourrer le crâne des enfants et en faire des êtres obéissants, mais pour en faire des citoyens éclairés pour l'avenir.
Alors Maïlys, que faire lorsque l'on déteste l'école du coup?
Il faut se bouger, il y a plein de solutions. Nous, ce qu'on avait fait, parce que moi, j'étais un peu rebelle et que j'étais politisée, on avait créé cette ACE, on avait écrit à l'inspecteur d'académie, on faisait nos affiches, on faisait nos réunions de nuit, on était hyper engagés dans l'action. On n'avait pas beaucoup de pouvoir, on était forcés, on n'avait pas le choix que d'y aller. C'est pour ça qu'il faut que l'école se transforme de l'intérieur, il faut qu'elle se transforme, l'école publique, pour être un espace où les enfants se sentent bien, même s'ils ne sont pas adaptés au système scolaire, où le système, il faudrait que le système puisse s'adapter à eux. Et donc, que faire quand on n'aime pas l'école? Il faut rêver. Moi, c'est l'écriture, c'était ma façon d'échapper à l'école aussi. Écrire pour rêver d'autre chose, un monde où on trouve sa place.
Est-ce que quelque part, les livres que vous avez écrits, ce ne sont pas au final des journaux intimes pour vous?
Non, c'est pas du tout des journaux intimes parce que je revendique la force de la fiction, d'invention, d'inventer. Et déjà, moi, ce que je faisais quand j'étais petite, c'était pour ça que j'écrivais. J'écrivais pour échapper au monde dans lequel j'étais, pour inventer des histoires dans lesquelles je trouvais ma place. Donc je pense que j'écris pour ça, pour trouver des mondes où habiter, où me sentir bien, même si ces mondes sont pas forcément faciles, joyeux. Mais en tout cas, c'est des mondes où on se sent à sa place. Et je pense que c'est la force de la fiction.
Est-ce que vous avez du coup pu discuter ou débattu avec des instituteurs sur la manière dont vous décrivez l'école, en tout cas celle des années 90 comme dans votre livre?
Ouais, il y a eu beaucoup de rencontres dans des librairies depuis la sortie du livre où il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont venus et qui et en fait ce qui m'a beaucoup étonnée, moi je me suis dit ah mince, ils vont me rentrer dedans, ils vont me dire mais pas du tout, on n'était pas comme ça, moi j'étais pas comme ça. Et en fait il y a plein d'enseignants qui m'ont dit que eux-mêmes étaient devenus, souvent ceux qui sont venus c'est des gens qui étaient touchés par le sujet, qu'ils étaient devenus enseignants pour réparer quelque chose parce que eux-mêmes avaient subi des violences quand ils étaient eux-mêmes enfants à l'école. Et je me souviendrai toujours de cette maîtresse qui m'a dit, mais moi, petite, je ne bougeais pas dans la classe, j'étais terrorisée parce que le maître nous malmenait, nous maltraitait. Et je suis devenue maîtresse pour réparer ça, pour qu'il y ait des gens qui ne soient pas comme ça. Et donc, cette violence scolaire, je pense que personne ne peut la nier. Heureusement, tout le monde ne l'a pas vécu. Hein. Il y a des enseignants formidables, et il y en avait déjà dans les années 90. Mais on est très nombreux, nombreuses à l'avoir subi. D'une façon ou d'une autre, que c'était physique ou psychologique. Et la violence institutionnelle, elle est encore là. Et ça, je pense qu'aucun enseignant ne peut le nier, parce que c'est aussi une violence pour eux, c'est une violence pour les enfants, c'est une violence pour eux. Je pense qu'il faut redonner un peu la parole à l'enfant pour comprendre ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, c'est vraiment écrire à hauteur d'enfant, le regard de l'enfant.
Alors, Maëlys Adema, on peut vous retrouver donc sur le stand de Libellis numéro 19, mais également sur la péniche Le Soleil cet après-midi.
Tout à fait, à 15h30, je crois, voilà, il y aura une rencontre sur la péniche.
Donc, de 15h30 à 16h30 pour Une famille dans l'histoire, hein, c'est ça?
Oui, c'est peut-être l'intitulé. Voilà, c'est autour de mon roman, L'école est finie, ouais, le dernier roman écrit, qui se passe donc à côté de Pourvendre, magnifique endroit où j'invite tout le monde à venir se promener.
Donc moi j'invite les auditeurs de Grand Sud FM à venir vous voir, découvrir vos livres, donc notamment le dernier L'école est finie. Merci beaucoup Maëlys Adema d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, bon après-midi.
Et nous, Thomas, on va continuer de découvrir les différents auteurs sur ce salon du livre du Grand Narbonne. On rappelle que c'est ouvert donc ce soir jusqu'à 19h et l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Allez, on va continuer notre petit tour au Salon du Livre du Grand Narbonne pour retrouver Marilyn. Marilyn en compagnie de Paul et Sophie Elkarat.
Et tout à fait, on est sur le stand 18, le stand de Cultura, et j'ai la chance d'être avec Sophie, avec Paul Elkarat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Paul Elkarat, j'ai déjà eu la chance de vous tendre le micro sur ce salon, c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, vous êtes de retour avec votre maman Sophie pour nous présenter ce roman écrit à 4 mains. Atypique, un livre qui aborde l'autisme et le lien entre une mère et son fils. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, je dirais plus que c'est un livre témoignage qu'un roman, mais il n'y a pas de souci. Ce livre a été pensé, écrit et rédigé par un ensemble de 3 personnes, Serge, Poézévara, ma mère ici présente et moi. Ma mère s'est beaucoup investie pour la réalisation, la confection du livre. C'est elle qui a donné, on va dire, le grain à moudre pour que ce livre voie le jour. Et franchement, je suis assez content, ravi du résultat et de la pente qu'il prend. Je pense que c'est un livre d'utilité publique où la santé mentale est au cœur de l'équation. Moi, j'ai pu entrecroiser ma vision, évidemment toute personnelle et ô combien nécessaire. Et ma mère, elle, a s'est exprimée sur la linéarité qui fut la nôtre depuis la jeunesse, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, dans une famille de cinq personnes, et où trouver sa place dans ce foyer, dans cette société, etc., en ayant un trouble du spectre de l'autisme, et ça c'est un enchevêtrement qui est nécessaire et qui permet justement une mise en abîme des points de vue.
Alors justement, je vais m'adresser à votre maman, Sophie Elkarat. Ce livre, qu'est-ce qu'il représente vraiment pour vous aujourd'hui? Je sais que vous avez mis 16 ans avant d'avoir une réponse sur le syndrome Asperger, donc ce livre il était indispensable?
Alors oui, il est indispensable. Il est motivé par les demandes que j'ai depuis que Paul est connu de divers parents, familles, enseignants, personnel de santé, etc., etc., qui me demandent, qui viennent, qui m'écrivent, qui font passer des messages à Paul pour que je tente de les aider. Donc c'est ce que j'ai capitalisé pendant 25 ans sur le sujet de l'autisme, d'un point de vue, j'allais dire, théorique, et d'un point de vue pratique avec Paul, en essayant de donner des conseils si on tente si tant est qu'on puisse le faire, à toutes ces personnes. C'est le livre que j'ai pas eu il y a 20 ans, en fait, et dont que j'aurais aimé avoir quand j'ai découvert que Paul avait un trouble du spectre autistique. Voilà, c'est une sorte de livre testament, en fait.
Ouais, vous donnez un petit peu des clés, des conseils aux familles. Et justement, Sophie, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que l'autisme est mieux pris en charge dans notre société ?
Alors, mieux pris en charge, oui. En toute honnêteté, oui, parce qu'on part de tellement loin, on part du néant en fait, hein, on part de rien. On part d'une ignorance abyssale sur ces sujets, à la différence des pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus en avance. Donc on part de tellement loin que c'est dur de dire qu'il est correctement pris en charge. Maintenant, les progrès sont là. Il y a des plans autisme. Le gouvernement met en place différents plans autisme depuis les dernières années. Il y a des financements sur la recherche, il y a des financements sur les structures de prise en charge des personnes avec un trouble du spectre autistique. Et leur visibilité est plus grande. Leur visibilité est plus grande. D'ailleurs, on utilise la notoriété de Paul pour sensibiliser à ce sujet. C'est l'objet du Tour de France qu'on a entamé avec ce livre. Et donc, voilà, il y a des. On essaye de contribuer, de mettre notre petite pierre à l'édifice d'une meilleure prise en compte de ces personnes.
Bah, c'est très bien comme ça, parce que je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Et justement, Paul. Bon, c'est vrai qu'on vous connaît comme l'un des champions des 12 coups de midi. En 2019, vous aviez 152 victoires. Est-ce qu'avant cette notoriété, vous sentiez comment dans cette société qui n'est pas forcément toujours prête à accepter les différences, comme on le disait à l'instant?
Comment j'étais avant? Avant de participer à l'émission, j'étais dans une optique assez sombre. Je voyais pas vraiment le bout du tunnel. J'étais dans une phase dépressive assez intense. Et donc j'avais envie justement de me faire plaisir, de sortir de mon quotidien assez enfermé, assez autistique au final, et donc de jouer à des jeux, de faire possiblement des émissions, de répondre à des questions de culture générale. Je venais d'arriver au club Question pour un champion de Grenoble aussi, et du coup j'avais un peu envie de me détendre et d'apprendre. En s'amusant de façon ludique, et donc j'ai eu cette idée de faire les sélections des 12 coups de midi à Grenoble en 2018, et ils ont mis 5 mois avant de m'appeler, et j'y suis allé en mars 2019, et je suis plutôt et ça a été le début d'une aventure assez extraordinaire et qui m'a rendu un tant soit peu heureux, et je suis vraiment reconnaissant, redevable de la chance qui m'a été donnée de le faire, et surtout des opportunités qui se sont offertes à moi après. Donc oui, ça a été le démarrage de la notoriété, oui.
Merci beaucoup Paul, c'est très touchant tout ce que vous dites sur ce livre donc atypique. Nous, on aura la chance de vous retrouver demain, alors à l'espace rencontre de Salon du Livre du Grand Narbonne, de 11h30 à 12h15 sur le thème dialogue mère-fils pour mieux comprendre l'autisme. Vous allez y partager votre expérience en fait, Sophie.
Oui, j'espère que ça sera utile pour le public qui aura demain, qu'on attend nombreux, et que on sera là pour répondre à toutes les questions, à tous les écouter tous les témoignages et bien sûr répondre à toutes les questions qu'il y aura sur le sujet.
Et vous serez là aussi, Paul, hein, pour répondre à toutes ces questions-là ?
Je pense. Je pense être en mesure de répondre aux questions qui me seront posées, oui.
J'en doute pas.
Donc, c'est votre question, j'y réponds. Du coup, je serai là demain pour à cet effet. Voilà, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez.
Et ben voilà, à l'espace rencontre. Moi, je suis ravie de vous avoir rencontrés tous les deux, Sophie et Paul Elkarat. Merci beaucoup pour cet échange. Et j'en profite, moi, pour dire aux familles qui nous écoutent et aux enfants qui sont porteurs de troubles neurodéveloppementaux avec ou sans troubles du spectre autistique, d'ailleurs, qu'il existe à Grusson. Une association, elle s'appelle TSA, comme Tous Solidaires Avançons. Et cette association, elle propose un accompagnement aux aidants. Alors moi, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à les contacter, et vous pouvez les retrouver sur Facebook, et vous aurez probablement Sylvie Brosse au téléphone, qui est très très investie et qui pourra aussi vous aider en tous les cas. Merci à tous les deux,
et puis de nous avoir donné la parole, merci beaucoup.
Eh bien, c'est avec grand plaisir, je vous souhaite un excellent salon à tous les deux, Sophie et Paul.
Merci.
Merci beaucoup.
14h47 sur votre radio régionale Grand Sud FM et nous sommes toujours en direct de la 11e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne. Et sans plus tarder, on va retrouver Benjamin avec Sandrine Catalan-Massé.
Oui, tout à fait, Thomas. Je suis avec Sandrine Catalan-Massé que vous pouvez retrouver sur le stand 18 de Cultura. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors, vous êtes autrice spécialisée en psychologie et parentalité et vous venez de publier « Puisque quelqu'un m'attend » aux éditions Erol. Donc, on va en parler dans un instant, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu à écrire des romans, vous qui êtes issu du monde de la psychologie et du journalisme?
Eh bien, c'est venu assez naturellement, mais avec urgence. On devait être dans les années 2016, oui, en 2016. Donc, je suis toujours journaliste, mais à l'époque, je n'étais que journaliste, spécialisée en santé et psycho. Et une histoire me trottait dans la tête, et ça a duré pendant quelques mois, et même années, cette histoire-là. Et c'est sorti comme une urgence. J'ai mis un petit peu de côté mon métier de journaliste et j'ai écrit pendant plusieurs mois. J'ai écrit un manuscrit sans savoir réellement ce que ça allait donner, mais cette histoire devait sortir de moi.
Alors, je le disais tout à l'heure, votre dernier roman s'intitule « Puisque quelqu'un m'attend ». C'est un titre fort, presque une promesse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous aviez envie de transmettre avec cette histoire ?
Alors, plein de choses. Déjà, je voulais parler. Il y a une double histoire, en fait, dans ce roman. Il y a l'histoire du couple, avec sa difficulté à durer, voilà, parce qu'on traverse tous, quand on veut mener et former un couple pendant des années, il y a des hauts, des bas, des remises en question. Mais il faut se poser la question, comment se réinventer, bien évidemment, si on veut durer. Donc c'est un peu l'histoire principale de mon roman, mais il y a une double histoire qui me tient à cœur énormément. Je pense que c'est dû à mon métier de journaliste spécialisé en psycho. J'ai campé en fait cette histoire et mes personnages dans l'univers psychiatrique, dans la psychiatrie, voilà, tout l'univers de la santé mentale. Et ça a du sens avec ce que je suis, avec ce que j'écris dans mes articles. Et donc, mon héroïne, vous voulez que je vous raconte un petit peu le
pitch? Un petit peu.
Voilà, un peu le pitch. Bon, ben voilà, c'est un petit peu comme un thriller, ça commence comme un thriller psychologique avec une héroïne qui est rescapée de la noyade et qui se retrouve amnésique dans un hôpital psychiatrique. Et personne vient la chercher, ni un mari, ni famille, ni enfant. Donc, elle est assez angoissée. Elle est entourée donc de personnages hauts en couleur qui, au départ, lui font un petit peu peur. Et finalement, avec ces personnages, avec l'aide des résidents, elle va retricoter l'histoire de sa vie et comprendre ce qui l'a menée dans cet hôpital. Donc, il y a une histoire autour de son couple, bien évidemment. Et ce sont ces résidents, avec leur vision particulière de la vie, qui vont redresser, remettre droite mon héroïne et dans le droit chemin de sa vie, voilà. Donc, je voulais vraiment les mettre en avant. Voilà.
Est-ce que le Salon du Livre, c'est aussi l'occasion de rencontrer du coup vos lecteurs? Est-ce que ces échanges vous apportent dans votre façon d'écrire?
Alors déjà, c'est formidable. Depuis ce matin, là, au Salon du Grand Narbonne, ça n'arrête pas. Les lecteurs sont là, ils sont au rendez-vous. Il y a ceux qui découvrent mes romans, mes trois romans, et il y a ceux qui reviennent parce que ils ont déjà lu les deux premiers. Ils viennent chercher le troisième, donc c'est vraiment un engouement qui fait du bien, qui me donne une énergie. Et je n'oublie jamais que j'écris pour ces lecteurs. Ils sont là et c'est eux qui me nourrissent. En fait, c'est un échange que je viens chercher. Je ne conçois pas l'activité. D'écrivain sans cet échange avec les lecteurs. Il est indispensable à mes yeux. Il me recharge, c'est ma batterie. J'écoute leur histoire aussi, c'est vraiment un échange formidable.
Alors on peut vous retrouver donc sur ce stand 18 de Cultura à Narbonne, mais également on peut vous retrouver demain sur la péniche Le Solal.
Oui, tout à fait. Avec Maureen Casse qui va m'interviewer. Alors c'est une première. J'avais jamais été interviewée sur une péniche, mais l'idée m'a vraiment conquise. Donc on va se retrouver sur cette péniche au fil de l'eau. On va parler du roman, bien évidemment, de la santé mentale, voilà, de tout ce qui a motivé mon écriture, mais aussi du parcours, je crois, de mon parcours, comment on passe du journalisme au métier d'écrivain. Quel est le parcours aussi pour éditer un livre. Voilà, je suis ouverte à toutes ces questions. Je pense que ça va être une très belle rencontre. Voilà.
Donc rendez-vous demain donc sur la péniche Le Soleil. Donc ce sera de 11h à midi. Merci beaucoup Sandrine Catalan-Massé, à retrouver sur le stand 18 de Cultura sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Merci beaucoup.
Merci.
Allez, tout le monde, on va terminer eh bien ce direct dans les prochaines minutes où Marilyn sera en compagnie de Lynn Papin.
Et on retourne au salon du livre du Grand Narbonne sur le cours Mirabeau-Narbonnais pour retrouver Marilyn avec la dernière autrice du jour, Lynn Papin.
Tout à fait, je suis en compagnie d'Lynn Papin qui est autrice de nombreux romans. On pense à L'Éveil, on pense Les Os des Filles ou encore Une Vie Possible. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui vous êtes venue nous présenter le petit dernier, le septième roman qui s'appelle Une Vague, Lynn Papin. Et ce roman nous parle d'amour mais sous un nouvel angle, celui du deuil impossible. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est l'histoire d'un couple dont la vie est chamboulée suite à une catastrophe naturelle. L'homme est déclaré mort, disparaît, la femme tente d'en faire le deuil, mais elle a le doute, voilà. Avec le doute, aurait-il survécu et serait-il possible qu'il ne soit pas mort et qu'il ait refait sa vie ailleurs?
Donc vous venez sur le stand 19, hein, si Lynn Papin vous a interpellé, pour vous faire dédicacer ce beau roman. Je rappelle quand même que vous êtes franco-vietnamienne, vous êtes arrivée en France à l'âge de 10 ans. Est-ce que c'est l'âge auquel vous avez commencé à écrire, Lynn Papin?
Oui, j'ai toujours beaucoup lu et écrit, mais c'est vrai que quand j'ai quitté mon pays, mes amis, un peu tout mon univers d'enfant, j'ai l'impression que la littérature m'a beaucoup consolée de ce chagrin d'avoir quitté tout ce qui faisait mon enfance et m'a accompagnée dans la découverte aussi de comment on grandit, ça m'a vraiment accompagnée dans mon évolution, on va dire, et donc l'écriture aussi.
Et ça continue à vous accompagner. Moi, je dirais, Lynn Papin, que vous écrivez avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur et de sensibilité. Est-ce que c'est ce qui vous correspond un petit peu dans la vie? En tout cas, c'est ce que vous dégagez?
Oui, je pense que je suis quelqu'un de très très sensible. Après, c'est vrai que mes livres vont aborder parfois des sujets, les sujets un peu difficiles de la vie, parce que je pense que la littérature est là aussi pour ça. Quand on, par exemple, fait face à quelque chose qui nous dépasse dans la vie, on peut trouver des réponses dans les livres, je trouve, ou de la consolation. Et en effet, oui, la douceur, je pense qu'on en a tous besoin quand même.
Ah oui, c'est très important, ça fait du bien. Lynn Papin, je reviens sur ce dernier roman, le septième, comme je le disais, Une Vague. Il nous fait prendre conscience, en fait, que l'on peut perdre l'autre, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il n'est pas là aussi pour nous faire prendre conscience qu'il est important de ne pas se perdre soi-même?
Oui, c'est vraiment le sujet du livre, c'est vraiment l'identité, à quel point on peut se perdre soi-même, à quel point aussi quand on grandit ou quand on... Dans la vie, on a parfois l'impression qu'il faut devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre, ou devenir meilleur, ou devenir mieux, et puis on se dit, mais en fait, à la base, qu'est-ce que je veux moi? C'est quoi mon identité? Qui suis-je, quoi? Donc toutes ces questions sont très présentes dans le livre. Et c'est vrai que moi, je personnellement, j'oscille toujours comme ça. J'essaye toujours de retrouver ma petite boussole, quoi. Je trouve que c'est important.
Est-ce que demain, donc, vous serez, c'est sûr, présente de 14h15 à 15h à l'espace rencontre du Salon du Livre du Grand Narbonne? Le thème, ce sera des vies fragiles. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, Lynn Papin?
Oh, bah, ça va être un échange avec Anne, la modératrice, autour d'Une Vague, donc de mon livre. Et je ne sais pas ce qu'elle a préparé comme question, mais je serai là pour répondre, c'est sûr, en tout cas.
Vous aimez ces moments d'échange avec les lecteurs, les lectrices? C'est important pour vous d'avoir des retours comme ça?
Oui, j'en fais beaucoup, beaucoup, des salons et des librairies là toutes les semaines en ce moment. Et c'est vrai que nous, quand on est auteur, ça nous permet de voir des visages aussi, de qui nous lit, et puis d'avoir surtout, moi, des retours chaque fois d'expérience, parce que les gens, finalement, quand ils viennent me voir... Ce qui est drôle, c'est qu'ils lisent mes livres, mais en fait, quand ils viennent, ils me parlent de leur vie à eux, parce que c'est ça qui résonne chez eux. Donc, ils me disent « Ah, ils me racontent leur vie, en fait ». Et je trouve ça chouette, parce que ça, c'est une vraie... je pense que la littérature sert à ça aussi, à se dire « Finalement, on a tous les mêmes joies et les mêmes chagrins, même si on pense qu'on est différents, mais en fait, on est quand même un peu tous pareils ».
Voilà, et puis vous avez quand même déjà un public, parce que vous me disiez tout à l'heure, c'est pas la première fois que vous venez sur ce salon du livre du Grand Narbonne.
Ouais, c'est la deuxième fois, je suis venue, je crois, il y a 3 ans. Et j'avais trouvé ça très chouette, on a fait la rencontre sur la péniche, il fait toujours beau. Donc dans ces conditions-là, c'est plutôt pas mal, ouais, je dois avouer.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le beau temps. Donc, profitez-en, venez retrouver Lynn Papin. Le stand, c'est le stand numéro 19, c'est le stand de Libellis. Et Lynn Papin sera un plaisir, là, tous ces romans hein, qui sont là, je les ai vus, Les Os des Filles, Une Vie Possible, vous allez les retrouver. Mais surtout, venez découvrir le 7e roman, Une Vague. Merci beaucoup, Lynn Papin, bon salon du livre.
Merci.